Veillée d'armes pour les syndicats mobilisés contre la réforme des retraites. Demain, ce sera la deuxième journée de manifestations et de grèves massives. Le gouvernement, lui, tente de relancer la concertation. Mais le haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, est en difficulté, accusé de proximité avec les assurances privées. Dossier dans ce journal avec Anne-Laure Chouin, Yannick Falt et Stéphane Robert. 3 mois de prison avec sursis pour Jean-Luc Mélenchon, condamné pour provocation et rébellion. Le leader de la France insoumise dénonce un jugement politique. Les explications de Pierre Neveu. La paix en Ukraine passe peut-être par Paris. Le nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky rencontre actuellement Vladimir Poutine à l'Elysée. Rencontre suivie par Bertrand Galichet. La Russie, privée de compétition sportive internationale pendant 4 ans, l'Agence mondiale antidopage a décidé de sanctionner Moscou qui aurait cherché à couvrir ses athlètes dopés. Nous verrons cela avec Jérémy Lange. Le mouvement contre la réforme des retraites est resté très puissant aujourd'hui dans les transports. Le trafic est largement perturbé, tant à la SNCF qu'à la RATP à Paris. Et la grève devrait s'intensifier demain avec la deuxième journée de manifestation des syndicats. Avant d'évoquer ces perturbations, nous allons Gare Montparnasse à Paris, où Anne-Laure Chouin a rencontré des cheminots déterminés et des usagers plutôt compréhensifs.
Pendant toute la durée de la grève, tous les jours à 17h, les informations des trains...
À Montparnasse, ce matin, on entendait le vent plus que la foule. Quelques usagers pourtant traversent la gare, comme cette retraitée qui soutient le mouvement des cheminots.
Ma retraite de sécurité sociale est de 500 euros. Donc je regarde de loin, j'approuve. C'est quelque chose de très difficile de se séparer de ce régime et puis d'avoir un système comme aux États-Unis où on travaille jusqu'à la mort. Quoi.
La SNCF assurait ce matin entre 15 et 20% de son trafic habituel. Et si les taux de grévistes sont en nette baisse comparé à jeudi, ce sont toujours les acteurs centraux de la circulation des trains, les conducteurs qui sont le plus mobilisés. Corinne de l'UNSA Ferroviaire est toujours aussi remontée.
Ayant déjà 32 ans de service, un peu plus, quand je suis rentrée à la SNCF, j'ai signé un contrat moral avec un départ à la retraite à 55 ans. Maintenant j'en suis à 57, voire 60 même. Je pense qu'il y a une majorité de personnes qui, alors je dirais pas qui nous soutiennent, mais qui sont dans le même bateau que nous en fait.
Ce matin, l'Assemblée générale organisée sur le site a reconduit le mouvement comme un seul homme. Après l'AG, les cheminots mobilisés se séparent. Certains partent rejoindre d'autres entreprises ou services publics et les autres restent sur place pour tenir informés les collègues non grévistes comme Maxime.
C'est important de leur dire qu'ils seront touchés, que leurs proches seront touchés par cette réforme et aussi les inviter à venir dans la rue demain pour la journée de manifestation.
Une deuxième manifestation qui sera un test, car si les agents grévistes de la SNCF se sentent compris par les usagers, ils les appellent aussi à s'impliquer. Une grève par procuration, disent-ils, sera trop difficile à mener à long terme.
Anne-Laure Chouin, merci. Demain à la SNCF, seuls 20% des TGV et des Transiliens devraient circuler. Du côté des TER, il y aura 3 trains sur 10 à Paris. 10 lignes de métro seront fermées. Les autres fonctionneront au ralenti, hormis les 2 lignes automatiques. Du côté du ciel, la Direction Générale de l'Aviation Civile demande aux compagnies aériennes de réduire de 20% leur programme de vol. Enfin, la grève devrait être bien suivie à l'Éducation nationale, mais les syndicats ne donnent pas ce soir de chiffres précis sur l'ampleur de la mobilisation. Pour tenter de désamorcer la colère syndicale, le haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye reçoit en ce moment les organisations syndicales. Jean-Paul Delevoye qui n'est pas en position de force dans ce bras de fer. Il a démissionné ce matin de ses fonctions d'administrateur d'un institut de formation dans les assurances, fonction qu'il n'avait pas déclarée auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Jean-Paul Delevoye évoque un simple oubli, mais ses détracteurs rappellent que les assurances privées voient d'un bon œil sa réforme. En attendant, Yannick Falt, le haut commissaire, garde la confiance de l'exécutif.
Le Premier ministre réaffirme évidemment son soutien à Jean-Paul Delevoye, fait savoir Matignon, argument à l'appui, les faits sont clairs et le haut-commissaire a, je cite, « tout remis dans l'ordre ». Tout remettre dans l'ordre, c'était donc d'abord reconnaître son erreur et la qualifier de pas responsable, c'était ensuite démissionner dans la foulée dès ce matin en expliquant qu'il n'avait assisté qu'à 3 conseils d'administration de l'Institut, le dernier il y a tout juste un an. Une démission express avant un nouveau rendez-vous avec les syndicats cet après-midi et avant les annonces d'Édouard Philippe mercredi sur le détail du projet de loi. Savoie. Il y avait donc urgence à éteindre le début d'incendie, d'autant que l'opposition et les syndicats ont immédiatement soufflé sur les braises en pointant un curieux mélange des genres. Et alors que l'argument relayé par la majorité d'une fonction occupée bénévolement pour nier tout conflit d'intérêts avait du mal à convaincre.
Yannick Falt, et effectivement, cette mobilisation contre la réforme des retraites est suivie de très près par l'opposition. À gauche comme à droite, on n'hésite plus à critiquer la manière dont Emmanuel Macron gère la crise sociale. Stéphane Robert, bonsoir.
Bonsoir.
La critique est unanime chez les partis d'opposition, tant sur le fond que sur la forme.
Oui, dans l'opposition, personne ne voit cette réforme avec bienveillance. Tous dénoncent le flou dans lequel Emmanuel Macron et le gouvernement maintiennent le projet. Dans ces conditions, il est naturel que ça génère de l'inquiétude, dit-on. Maintenant, au-delà de ce constat commun, les Républicains ne disent évidemment pas la même chose que la France Insoumise ou le Parti Socialiste. Pour LR, c'est essentiellement la méthode qui ne va pas. Comme cette réforme est illisible et n'est pas financée, elle va générer des blocages dans la durée et Emmanuel Macron sera obligé de reculer. Au bout du compte, on aura une toute petite réforme, prédit le vice-président de Les Républicains, Guillaume Pelletier. Pour le reste, le parti de droite est d'accord avec la suppression des régimes spéciaux. Il estime aussi qu'il faut garantir le montant des pensions versées aux actuels retraités et du coup qu'il est nécessaire pour assurer l'équilibre financier du système d'allonger l'âge de départ à 64 ans ou 65 ans, ce qu'à ce stade ne prévoit pas le projet du gouvernement. Le Parti Socialiste, lui, n'est pas non plus opposé à la fusion des régimes spéciaux, mais à condition que soit prise en compte la pénibilité. Parce que, dit Olivier Faure, l'espérance de vie n'est pas la même entre les Français les plus riches et les Français les plus pauvres. Quoi qu'il en soit, pour le premier secrétaire du PS, il n'y a pas d'urgence à réformer. La France Insoumise, tout comme le Parti Communiste, ne veulent pas du système de retraite par points que prétend instaurer cette réforme. Ce serait une régression inégalitaire, disent notamment les Insoumis, car le nouveau système va faire travailler tout le monde plus longtemps et faire baisser le niveau des pensions. Pour les deux formations situées à la gauche de l'échiquier politique, la France a les moyens de maintenir un âge de départ à 60 ans après 40 annuités de cotisation. Il n'est qu'à augmenter progressivement le montant des dites cotisations. Quant au Rassemblement National, il estime qu'il n'est pas nécessaire de réformer un système qui fonctionne plutôt bien et que pour le maintenir à l'équilibre, il suffit de créer de l'emploi et de mettre en place une politique de natalité. Maintenant, au-delà de ces critiques, on voit bien que ce ne sont pas les formations politiques qui sont au centre du jeu dans cette affaire, ce sont les organisations syndicales, en particulier celles avec qui le dialogue n'est pas rompu, indique-t-on à Matignon. Ce sont à elles que le Premier ministre va s'adresser en dévoilant son projet mercredi, en essayant de convaincre qu'il est ouvert à la discussion et qu'il y a des marges de négociation.
Stéphane Robert, merci. La réforme des retraites, on en reparle après ce journal dans le temps du débat. La forte mobilisation contre le projet du gouvernement s'explique-t-elle par la peur du lendemain? C'est la question qu'Emmanuel Laurentin posera à ses invités. C'est un jugement politique. Voilà la première réaction de Jean-Luc Mélenchon après sa condamnation à 3 mois de prison avec sursis pour rébellion et provocation. Le tribunal correctionnel de Bobigny a suivi les réquisitions du parquet. Le leader de la France Insoumise était jugé pour avoir violemment contesté la perquisition du siège de son parti en octobre 2018. 4 autres responsables du mouvement ont été condamnés à des amendes comprises entre 2000 et 7000 euros. Seul le député insoumis Alexis Corbière a été relaxé. Pierre Neveu, bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Luc Mélenchon a beau se poser en victime d'une justice politique, sa cote de popularité n'a cessé de s'effriter depuis ses fameuses perquisitions d'octobre 2018.
Oui, on le sait, Jean-Luc Mélenchon est un tribun qui sait manier le verbe. Son score à la présidentielle en atteste. Sur son nom, le chef de file de la France Insoumise a rassemblé plus de 7 millions d'électeurs. Mais Jean-Luc Mélenchon est d'abord un révolté, un révolutionnaire en colère qui s'emporte et s'oppose avec virulence lors de la perquisition d'octobre 2018. Et c'est à ce moment-là qu'on le voit décrocher dans les sondages moins 7, moins 8, moins 14 points. Qu'il s'agisse d'opinions favorables, de bonnes opinions et autres codes de soutien et sympathie. Pire que tout, un sondage Odoxa réalisé en septembre dernier. Et sans appel pour plus de 7 Français sur 10, Jean-Luc Mélenchon est agressif, pas sympathique et pas honnête. Parler fort pour marquer les consciences, c'est la signature de Jean-Luc Mélenchon, mais cette attitude est devenue contre-productive, constate Frédéric Michaud, directeur des études chez Opinionway.
L'un des problèmes de Jean-Luc Mélenchon, c'est le problème de son positionnement politique. avec des variations depuis 2017 dans la ligne politique qui ont suivi, variations qui ont créé de l'incertitude, des remous au sein de la France insoumise, et puis qui créent de l'incertitude, de la confusion aussi dans son électorat et dans l'opinion publique.
Et preuve s'il en est que le message ne passe plus, le score de la France insoumise aux européennes, 6,3% des suffrages, 5 millions de voix perdues en 2 ans. Au lendemain de ce scrutin, Clémentine Autain dénonce, sans le nommer, Jean-Luc Mélenchon, sa stratégie populiste et de clash permanent. Nous gagnons quand nous sommes du côté de l'espérance, dit la députée La France Insoumise, pas quand nous sommes du côté du ressentiment ou de la haine.
Pierre Neveu, merci. L'actualité politico-judiciaire, c'est aussi le maintien en détention de Patrick Balkany. La Cour d'appel de Paris a rejeté ce matin la 3e demande de mise en liberté du maire Les Républicains de Levallois-Perret. Patrick Balkany est incarcéré depuis bientôt 3 mois après ses condamnations successives pour fraude fiscale et blanchiment. Et c'est donc en tant que détenu qu'il comparaîtra mercredi pour son premier procès en appel, Florence Turme.
Le président de la Cour a rendu sa décision en une poignée de secondes face à un box des prévenus vide, Patrick Balkany ayant refusé d'être extrait de la maison d'arrêt de la santé où il est incarcéré depuis le 13 septembre dernier. Une décision lapidaire sans détail des motivations retenues face à ces 2 nouvelles demandes. L'abaissement de sa caution, fixée à 500 000 euros, est donc rejeté. Le maire de Levallois avait indiqué qu'il n'avait pas les moyens d'y faire face. Rejeté également la demande de mise en liberté formulée par le nouvel avocat de Patrick Balkany et pour l'heure, Romain Dieudonné dit ne pas comprendre cette décision.
Sur la question de la remise en liberté, de la même manière, le rejet a été rapide et en tout cas à la lecture publique pas détaillé. Donc je verrai bien à la lecture de l'arrêt comment cette fois-ci la Cour a motivé sa décision de rejet. Mais la première fois, c'était pour des risques de concertation avec les mises en cause et de pression sur les témoins. Et si ces éléments sont à nouveau invoqués par la Cour pour motiver son rejet, ça va commencer à poser une sérieuse difficulté à partir du moment où s'agissant des mises en cause, par exemple, la seule mise en cause restante dans ce dossier est Mme Isabelle Balkany qui va voir son époux 3 fois par semaine en détention et qui l'a au téléphone quotidiennement.
Patrick Balkany comparaîtra donc détenu mercredi à son procès en appel pour fraude fiscale, celui précisément qui lui avait valu cette condamnation à 4 ans de prison avec mandat de dépôt à l'audience. Cette fois-ci, son épouse devrait être présente sur le banc des prévenus. C'est le début d'un nouveau marathon judiciaire pour les époux Balkany qui reviendront devant la justice en février pour le 2e volet de l'affaire. Blanchiment de fraude fiscale en plein cœur de la bataille des municipales dans laquelle le maire de Levallois a décidé de se lancer à nouveau en dépit de son incarcération.
Florence Turme. La réforme du baccalauréat entre dans le vif du sujet. Les élèves de première inaugurent cette année la nouvelle formule du bac et du 20 janvier au 5 février prochain, ils passeront les premières épreuves du contrôle continu. Ce matin, le ministère de l'Éducation a publié avec retard la banque de données dans laquelle les enseignants choisiront les sujets proposés dans plusieurs matières. Histoire, géo et langue vivante pour les filières générales et mathématiques pour les sections technologiques. Hakim Kasmi, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
À un peu plus d'un mois des épreuves, c'est l'inquiétude chez les élèves comme chez leurs professeurs qui redoutent des problèmes d'organisation.
Oui, concrètement, pour préserver l'anonymat, les copies seront numérisées et corrigées par des enseignants de l'établissement centre d'examen, mais ils ne devront pas évaluer un élève qu'ils ont déjà, ce qui risque d'être compliqué dans les petits lycées où il y aura par exemple 2 classes de première seulement. 2 logiciels seront chargés de faire le mélange des copies et la répartition pour les correcteurs. Philippe Vincent, secrétaire général du SNPDEN, le principal syndicat des chefs d'établissement.
2 dispositifs devront être capables d'associer un groupe de copies numérisées et anonymées à un correcteur, l'idée étant que la copie ne peut pas être attribuée à un correcteur qui est l'élève en classe. Donc ça nécessite un croisement de base relativement important.
Qui sont accessibles depuis aujourd'hui seulement sur une banque de données, sauf qu'ils arrivent bien trop tard, car ils auraient dû normalement être publiés pour les enseignants seulement dès le mois de septembre, ce qui va poser des problèmes de préparation pour les élèves, mais aussi pour les enseignants, estime Claire Crépère du SEUNSA.
La plateforme devait être prête pour la rentrée de septembre. Or, là, on est déjà à la fin du premier trimestre et les collègues ne commencent qu'à pouvoir regarder les sujets. Donc on a vraiment un gros décalage pédagogique. On sent que le ministère essaye de répondre aux urgences, urgence après urgence, et n'a pas considéré que la dimension pédagogique était une dimension essentielle de la réforme.
Les syndicats demandent donc le report, voire l'annulation complète des épreuves anticipées prévues en janvier.
Hakim Kasmi, merci. La paix a-t-elle un avenir en Ukraine? C'est tout l'enjeu du sommet qui s'est ouvert aujourd'hui à Paris. Un sommet au format Normandie qui regroupe le président russe Vladimir Poutine, son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, la chancelière allemande Angela Merkel et Emmanuel Macron. Au cœur des discussions, le Donbass, cette région ukrainienne contrôlée par les séparatistes pro-russes. En revanche, la Crimée, annexée par Moscou, ne sera pas évoquée. C'est la première fois que l'ukrainien Zelensky rencontre le russe Poutine. On retrouve au palais de l'Élysée Bertrand Galichet.
Parmi les rencontres bilatérales aujourd'hui à l'Élysée, la plus attendue est évidemment celle entre les présidents Poutine et Zelensky. Elle devrait avoir lieu plus tard, en fin de journée. Un enjeu majeur pour le dirigeant ukrainien qui doit affronter une double pression, celle de son opinion publique, redoutant les concessions qui pourraient être faites à la Russie, et en même temps le bras de fer avec Vladimir Poutine, habitué à ne rien lâcher. Les deux hommes ne s'étaient pas rencontrés avant cet après-midi. Volodymyr Zelensky est arrivé détendu ici à l'Élysée, mais il mesure son inexpérience politique. Le sommet à 4, Ukraine, Russie, France, Allemagne, vient de commencer. Emmanuel Macron et Angela Merkel, qui portent cette réunion, vont devoir se montrer stratèges pour obtenir un résultat. Le président français s'est personnellement investi pour la tenue de cette réunion, mais les négociations sur le processus de Minsk sont gelées depuis plus de 3 ans. Vladimir Poutine n'a guère donné de signes de détente, malgré les échanges de prisonniers entre les deux camps. Et surtout, Moscou continue de nier toute présence ou soutien militaire aux milices pro-russes dans le Donbass, pourtant étroitement liées au Kremlin. La dissolution de ces groupes armés est un point dur de la négociation entre les camps. Vladimir Poutine reconnaît seulement une action humanitaire en faveur des populations russophones. La question majeure est celle des frontières. La France veut permettre à l'Ukraine de retrouver sa pleine souveraineté sur l'ensemble du territoire ukrainien, un défi face aux géants russes.
Bertrand Galichet depuis le palais de l'Élysée. En quête de respectabilité sur la scène internationale, la Russie ne pourra pas compter sur le sport pour améliorer son image et pour cause. L'Agence mondiale antidopage a décidé de bannir le pays de Vladimir Poutine de toutes les compétitions internationales pendant 4 ans. L'agence reproche à Moscou d'avoir falsifié les données de ses athlètes dopés. Conséquence de cette décision, la Russie en tant que nation devrait être absente des prochains Jeux olympiques de Tokyo et de la Coupe du monde de football au Qatar. En revanche, les athlètes russes pourront participer aux épreuves des JO sous une bannière neutre. C'est à Lausanne que l'Agence mondiale antidopage a rendu sa décision. Lausanne où l'on retrouve Jérémy Lange.
Sévérité exemplaire pour les uns, clémence injustifiée pour les autres. Les sanctions de l'Agence mondiale antidopage sont en tout cas les plus lourdes jamais infligées à un pays. La Russie est exclue de toutes les compétitions majeures pendant 4 ans, ce qui ne veut pas dire que ses sportifs ne pourront pas y participer. Jonathan Taylor est le président du comité d'examen de la conformité de l'Agence mondiale antidopage.
C'est une sanction complète pour 4 ans. La Russie ne pourra pas accueillir des compétitions internationales ni demander à en accueillir de nouvelles. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de compétition en Russie pendant plus de 4 ans. En ce qui concerne la participation, la sanction est claire. Il n'y aura pas de drapeau russe dans tous les championnats du monde et les sportifs qui y participeront ne pourront pas le faire sous les couleurs de la Russie.
Une exception, le cas des 145 athlètes russes dont les données ont été jugées suffisamment suspectes pour les empêcher de concourir, même avec un maillot neutre. La Russie peut encore faire appel, un scénario qui n'inquiète pas Jonathan Taylor.
Si l'agence russe antidopage accepte les sanctions, elles seront appliquées immédiatement. Dans le cas contraire, ce sera au tribunal arbitral du sport de se prononcer. Sans doute avant mars ou avril 2020. Est-ce que la décision du tribunal sera différente de la nôtre? Je ne le crois pas.
Si la procédure s'éternise, la Russie pourrait bien participer aux JO de Tokyo l'an prochain. Dans ce cas-là, elle serait exclue de ceux de Paris en 2024. Aucune incidence en revanche pour le prochain Euro de football. Les compétitions européennes ne sont pas concernées par la décision de l'Agence mondiale antidopage.
Jérémy Lange, correspondant en Suisse. Le Washington Post publie une série de révélations qui remettent en cause la pertinence de l'intervention militaire américaine en Afghanistan. Cette enquête est baptisée The Afghanistan Papers. Elle s'appuie sur des documents confidentiels issus de l'administration américaine. Grégory Phillips nous appelle de Washington.
En 2015, le général 3 étoiles Douglas Lutt, qui a servi sous administration Bush et Obama, fait ce constat quand il est interrogé par l'organisme fédéral en charge d'enquêter sur le coût et les résultats de la guerre en Afghanistan. « Qu'essayons-nous de faire là-bas ?» dit ce haut gradé, 13 ans après le début de l'intervention américaine. « Nos concitoyens ne connaissent pas l'ampleur des dysfonctionnements. Près de 2400 morts américains. Tout ceci est vain. » Cette déposition fait partie des 2000 pages de documents que le Washington Post a pu obtenir. Au total, 428 responsables militaires ou civils décrivent le bourbier qu'est devenu l'Afghanistan. Depuis 2001, plus de 775 000 soldats US y ont été déployés. Cela a coûté aux contribuables américains près de 1000 milliards de dollars, sans compter les frais de la CIA, et ceux engendrés pour les soins médicaux des 20 000 blessés. Surtout, ces documents démontrent que trois présidents, W. Bush, Obama et Trump ont sciemment menti au grand public, parlant de succès. Alors que cette guerre est un désastre, l'état-major et la Maison-Blanche ont même truqué des statistiques pour faire croire à l'obtention de bons résultats. Le travail du Washington Post, qui en justice a réussi à faire déclassifier certains de ces documents, rappelle les Pentagon Papers, publiés au début des années 70, mais à l'époque par le New York Times. La publication de ces documents intervient au moment où l'administration Trump envisage de retirer 13 000 soldats américain d'Afghanistan et vient de reprendre les négociations avec les talibans.
Grégory Phillips, correspondant aux États-Unis. Le temps demain, plus calme qu'aujourd'hui. Encore quelques pluies sur le nord-ouest. Partout ailleurs, le ciel sera gris et brumeux, sauf sur les régions méditerranéennes où le soleil devrait s'imposer. Température minimale en baisse de moins 2 à 6 degrés du nord au sud. Les maximales seront comprises entre 4 et 17 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.